au féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des dossiers concernant les femmes et la jeunesse.
C'est dans la presse.
Les femmes en Inde ont le droit de pénétrer dans le grand temple hindou Sabarimala Sri Ayyappa dans le Kerala grâce à l'annulation d'une interdiction jugée discriminatoire par la Cour suprême le 28 septembre 2018. Cette affaire avait fait les gros titres lorsqu'un journaliste avait attribué les inondations au Kerala aux femmes voulant entrer dans ce temple. Cette décision ouvre la voie à l'hindouisme pour devenir plus inclusif et non pas la propriété d'une seule caste ou d'un seul genre, s'est réjouie la ministre du Développement de la Femme et de l'Enfant, Maneka Gandhi. Les femmes africaines ont le taux de création d'entreprises le plus élevé au monde pour assurer leur subsistance et celle de leur famille. Mais elles manquent de financement, d'infrastructures et de formation numérique, révèle une étude de l'Institut Roland Berger. En Afrique, 24% des femmes créent leur entreprise, soit un taux beaucoup plus élevé qu'en Amérique latine, 17%, Amérique du Nord, 12%, Europe et Asie centrale, 8%, indique l'étude. Précisant toutefois que les femmes africaines créent souvent leurs entreprises à défaut de pouvoir accéder au marché de l'emploi.
Parole de femme.
La participation des femmes à la vie politique au Nigeria se heurte encore à la religion et la tradition, principalement dans le nord du pays. Alors que les femmes réclament plus de positions sur la scène politique, notre correspondant Gilbert Tamba a rencontré des personnalités qui militent pour améliorer cette situation.
S'est lancé dans l'arène de la politique nigériane dominée par les hommes, de surcroît dans le nord-est du pays, conservateur est toujours une décision difficile pour une femme. La plupart des hommes politiques considèrent que la place de la femme est à la cuisine. Sero Djibril a été la première candidate à une élection présidentielle au Nigeria en 1992 et en 1998 contre Olusegun Obasanjo et ensuite contre l'ancien président Goodluck Jonathan en 2011.
Mon objectif était de montrer que nous, les femmes, nous sommes bloquées et gardées dans l'ignorance et les hommes s'accordent plus de respect eux-mêmes et les utilisent contre les femmes. Ils piétinent ensuite les vertus des femmes et les empêchent de s'impliquer dans la politique. Et je ne suis jusqu'à présent pas satisfaite.
C'est sans surprise qu'elle a été battue par Goodluck Jonathan aux primaires du PDP. Ça, c'était il y a 7 ans. Cependant, pas grand-chose n'a changé pour les femmes comme elles qui se battent pour l'égalité de représentation et de participation dans le domaine politique au Nigeria. Princesse Hodman Nobel est activiste des droits des femmes au Nigeria.
Il est vrai que la religion et la croyance culturelle constituent un obstacle à la participation des femmes en politique. Mais cela a aussi évolué avec le temps. Puisqu'au-delà des obstacles de la tradition, de la religion et de la culture, nous avons d'autres choses récentes qui découragent les femmes à s'impliquer dans la politique. Si nous prenons par exemple l'achat des consciences pendant les périodes électorales, les femmes ne peuvent pas mobiliser de tels montants.
5 élections générales ont eu lieu au Nigeria depuis 1999, année qui marqua le retour du pays à la gouvernance démocratique au terme de longues années de dictature militaire. Depuis, seule une poignée de femmes ont occupé des fonctions officielles. Cette situation est d'autant plus étonnante que le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique et que dans d'autres pays du continent africain, des progrès considérables ont été accomplis dans ces domaines. Les causes de la sous-représentation des femmes dans la politique nigériane sont multiples. Djibril Ibrahim est professeur de sciences politiques à l'université d'Abuja.
Je pense souvent les hommes ont peur. Beaucoup de ces femmes-là sont compétentes. Beaucoup d'entre elles ont joué un rôle important dans la vie communautaire. Ils sont bien connus dans leur communauté. Donc, c'est les femmes qui ont le potentiel de gagner. Et c'est pour les bloquer que les hommes qui veulent les concurrencer cherchent de les détruire.
Le Nigeria est un État multiconfessionnel avec une population de près de 200 millions d'habitants aujourd'hui. Le pays est réparti pratiquement à part égale entre chrétiens et musulmans. Des interprétations conservatrices de ces deux religions font qu'à l'heure d'accéder aux coulisses du monde politique au Nigeria, les femmes se heurtent à des obstacles à la fois culturels et religieux. Gilbert Tambavio, Afrique, Abuja.
La loi burundaise autorise les vendeurs ambulants à vendre leurs produits dans les quartiers périphériques, mais pas au centre-ville de Bujumbura. La mairie a suspendu le commerce ambulant pour une durée de 3 mois fin 2018 pour des raisons sécuritaires et de salubrité. Notre correspondant Christophe Nkurunziza a donné la parole à des vendeuses dans la capitale pour mieux connaître leur situation.
Alice Senzokundo est âgée de 23 ans et mère d'une fille. Elle habite la zone de Mouira sur les hauteurs surplombant la capitale. Chaque matin, elle descend avec ses produits vivriers pour les vendre dans les quartiers de Roero, Kiriri, Nyakabiga, Wiza et autres de la ville Bujumbura. Elle vendait des arachides et des morceaux de manioc sur l'avenue de l'université. VOA Afrique lui a demandé pourquoi elle ne va pas dans un des marchés reconnus par les autorités administratives. Voici sa réponse.
Nous vendons ainsi dans la rue selon le capital dont nous disposons. Personnellement, j'ai un capital de 7000 francs burundais, ou moins de 5 dollars américains. Avec cet argent, je suis incapable de payer l'impôt pour le marché. C'est pourquoi je préfère être une vendeuse ambulante et je circule de quartier en quartier. Les agents de la police nous surprennent souvent et prennent tout notre pauvre capital. Mais souvent, il y a des clients bienfaiteurs. Quand ils voient que la police a pris tous mes produits et l'argent vendu, ils me donnent 10 000 francs burundais pour continuer mon activité et faire aussi vivre ma fille. Je demande aux autorités de nous venir en aide pour que la police ne nous maltraite plus.
L'histoire d'Alice Nzokundwa ressemble à celle des milliers de femmes burundaises qui se battent quotidiennement pour la survie de leur famille. Cette mère de 28 ans, Niran Mewa, qui habite en quartier huppé de Bujumbura, achète souvent les produits que font circuler ces vendeuses ambulantes. Témoignage.
Pour moi, tout ce qui peut favoriser la femme à se développer, à s'autonomiser, je suis totalement d'accord. Compte tenu aussi de la pauvreté du pays, c'est la femme qui en est victime en premier lieu. Alors si la femme parvient à se lever, à être active, à essayer de sortir de cette situation de pauvreté, de vulnérabilité. Moi, j'encourage totalement la femme.
Cette autre femme, qui n'a pas voulu donner son identité, reconnaît que les vendeuses ambulantes rendent service aux clients.
Premièrement, je les aide dans leur épanouissement. Et moi, ça m'arrange quand je vais acheter quelque chose ou bien là où je veux. Je trouve ces choses dans un endroit qui n'est pas beaucoup plus loin et aussi à moins cher. Vu que les conditions d'aujourd'hui sont plus chères alors qu'on n'a pas de moyens suffisants. De deux, ça les aide dans leur nourriture.
Pour le maire de la ville de Bujumbura, une réunion sera prochainement programmée pour trouver une issue à ce problème, Freddy Mbolima.
Pour des raisons de sécurité, pour des raisons de salubrité, nous avons demandé à ces femmes et aussi à d'autres commerçants ambulants d'attendre et d'exercer leur métier dans les différents quartiers. Mais le centre-ville, étant donné que c'est le miroir, nous avons demandé qu'on puisse discuter avec ces gens pour trouver une solution durable et pouvoir les encadrer efficacement pour ne pas retourner en arrière au point de vue sécuritaire et au point de vue salubrité.
Le porte-parole de la police indique que la police n'a pas interdit le commerce ambulant en mairie de Bujumbura. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Selon un rapport de l'Organisation internationale du travail sur l'emploi informel en 2018, 76% des emplois en Afrique ne sont pas déclarés, donc ne font l'objet d'aucune imposition sur le revenu ni de protection sociale. Les pays situés entre le sud du Sahara et l'Équateur sont les plus touchés par le phénomène. En Afrique centrale et de l'Ouest, l'emploi informel représente respectivement 91% et 92% de l'emploi global, tandis que pour les pays d'Afrique du Nord, il en représente 67% et 40% pour les pays situés à l'extrémité sud du continent.
Si jeunesse pouvait.
Suivant l'exemple d'autres pays d'Afrique de l'Ouest comme le Sénégal, le Burkina Faso a engagé en août dernier des opérations de retrait des enfants de la rue. La plupart de ces enfants mendient pour des marabouts sous couvert de formation en école coranique, mais d'autres types de cas ont été observés. Notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré, a rencontré des responsables chargés de ce travail au début des opérations.
Dans les rues de la capitale burkinabé et dans toutes les grandes villes du pays, il n'est pas rare de voir des enfants traîner dans les rues. Ils quémanent, mangent et dorment dehors. Plusieurs catégories d'enfants sont concernées. Solange Sommé est la directrice provinciale de la femme de la solidarité nationale dans le Houé, Bobo Dioulasso, deuxième grande ville du pays.
De façon générale, il y a dans ce groupe de mendiants-là les enfants talibés. Il y a même les enfants en situation de rue qui mendient. Et il y a les enfants, les jumeaux, voilà, que les parents, les mamans trimballent en ville.
La plupart des enfants sont confiés à des maîtres pour leur apprentissage du Coran. Le petit Amidou, à peine 10 ans, est mendiant.
C'est mon papa qui m'a confié à un maître coranique. Et il me dit de sortir.
L'islam condamne d'ailleurs ces phénomènes. Oumar Oumoné est imam au Serfi, cercle d'études, de recherche et de formation islamique.
De plus en plus, le phénomène s'est aggravé où certains maîtres coraniques en font maintenant un gagne-pain. Et certains même vont à imposer un certain nombre de montants que les enfants doivent envoyer chaque soir. Dans aucun texte de l'islam, vous ne verrez nulle part où on encourage effectivement les uns et les autres à la mendicité, surtout la mendicité professionnelle. En faire une profession, l'islam rejette ça.
Et au ministère de la Solidarité nationale, on ne veut plus voir d'enfants dans les rues. Au moins 10 équipes sont engagées pour l'opération, pour retirer les enfants des rues. La ministre assure que le gouvernement va se battre pour les mettre à l'abri et permettre leur réinsertion sociale et professionnelle. Marie-Laurence Marchal-Ilboudo.
Nous allons les accompagner, en tout cas, pour qu'ils prennent leur destin en main. C'est un travail de patience, vous avez suivi un peu, et puis de persévérance. Je pense que nos équipes sont déjà aguerries pour cette tâche et surtout qu'il y a la volonté. C'est pour ça que nous avons basé notre stratégie sur le volontariat. Donc il faut être volontaire pour faire ce travail. Vous voyez, il pleut, on est sous la pluie et il faut prendre ses enfants en douceur. Donc je suis confiante du résultat.
Les enfants ont 6 mois à faire dans les centres d'accueil, le temps de chercher les parents. Et dans le cas échéant, à défaut de retrouver les parents, certains enfants seront placés dans les centres aménagés pour les accueillir. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
En Guinée, nombre de filles sont mariées avant l'âge de 15 ans. La situation préoccupe le Club des jeunes filles leaders de Guinée, une association qui milite pour le respect des droits des filles. Ces jeunes activistes ont réussi à faire annuler des cas de tentatives de mariage précoce. Elles sont plus de 200 à veiller au respect des droits des filles dans leur pays et sont allées jusqu'à sensibiliser le Premier ministre, qui a notamment soutenu personnellement leur cause lors d'une caravane organisée dans le pays. Notre correspondant Zakaria Camara nous en dit plus dans son reportage.
Les jeunes filles leaders de Guinée sont convaincues qu'il faut réagir pour éviter de nouvelles victimes des mariages forcés et précoces. Pour réussir le combat qu'elles mènent contre une situation qui a la peau dure, elles sollicitent le soutien de l'autorité centrale. Les responsables de l'association ont été reçus par le Premier ministre guinéen. Hadia Idriss Abba, présidente du club des jeunes filles leaders de Guinée.
Nous sommes là pour partager avec lui toutes les actions que nous sommes en train de mener aujourd'hui dans le club, dans le cadre de l'émancipation de la jeune fille, et aussi lui demander un soutien, c'est-à-dire qu'il nous aide vraiment au niveau de leur département, c'est-à-dire le département de la justice, que ceux-ci acceptent d'accélérer l'harmonisation des différents codes juridiques dont les lois ne sont pas en harmonisation.
Selon le code de l'enfant en Guinée, tout être humain âgé d'au moins 18 ans est un enfant, alors que le code civil impose 17 ans comme âge minimum pour se marier. Les jeunes filles leaders ont sollicité l'implication du chef du gouvernement guinéen sur ce point précis. Ibrahima Kassori Fofana a promis d'aider le club des jeunes filles leaders de Guinée.
Toutes ces horreurs-là doivent disparaître dans des sociétés entre guillemets civilisées. Ces jeunes filles mènent nos campagnes, nos enfants. Nous avons le devoir civique de les appuyer. Nous ferons la plaidoirie auprès du système judiciaire pour que cette dichotomie soit levée.
Les membres du club des jeunes filles leaders de Guinée sont arrivés chez le Premier ministre accompagnés du représentant de plan international. Pour Amavi, à Pamabo, la lutte contre les mariages des enfants doit être une affaire de tous.
C'est beaucoup plus des actions en direction de la masse populaire, de faire en sorte que chacun comprenne et que ce n'est pas de leur intérêt que les enfants, les filles soient mariées à bas âge, parce que ça détruit l'avenir de l'enfant, ça détruit toute une génération en réalité, et de faire en sorte que le message puisse passer dans les contrées les plus reculées, mais aussi dans les grandes villes. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il a proposé son appui personnel en tant que citoyen guinéen.
Le lendemain, la caravane se met en branle dans les rues de Conakry. La campagne vise les marchés. Partout, le message est le même. Le mariage des enfants est une violation des droits, mais pour Foulé Matou, membre de l'association, cette pratique a des conséquences sur la vie de la jeune mariée.
Ce qui est choquant dedans, c'est que c'est un enfant qui donne naissance à un autre enfant. En plus de tout ça aussi, sur le plan de la santé, il y a des troubles psychologiques chez la fille. En plus de ça, la fille peut être stigmatisée par son mari. Comment ? Parce que le mari dit, la fille là, est devenue charge pour moi. Alors qu'est-ce que le mari fait ? Il part chercher une autre femme, une autre fille, qui a déjà un métier, ou bien qui a étudié, étant maintenant faire d'elle sa femme. Et l'autre femme déjà est rejetée avec ses enfants.
Le club des jeunes filles leaders de Guinée a fait annuler au moins 10 tentatives de mariage d'enfants. Il a empêché la célébration du mariage d'une fille de 14 ans qui devait rejoindre son mari en Côte d'Ivoire. Zakaria Camara pour VOA Afrique.
Mais oui, et si la jeunesse pouvait?
Et comme nous le savons, les États-Unis ne sont pas en reste en ce qui concerne le mariage des enfants. Entre 2000 et 2015, plus de 200 000 mineurs étaient mariés aux États-Unis, pour la plupart des filles mariées à des adultes. En 2018, le Delaware et le New Jersey sont devenus les deux premiers États à avoir interdit complètement le mariage des enfants de moins de 18 ans. La plupart des États disposant d'exceptions. Et depuis 2016, plusieurs États ont relevé leur âge minimum ou ajouté un âge minimum lorsqu'il n'y en avait pas auparavant. À savoir que dans certaines régions, les mineurs ne peuvent pas légalement divorcer ou quitter leur conjoint.
Entre parenthèses.
Au Cameroun, une start-up orientée sur la création des richesses et des opportunités de carrière dans la mode fraye le chemin aux jeunes. Dans un univers jadis fermé, cette start-up constitue une aubaine pour les futurs mannequins, comme l'a constaté notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap, qui a assisté à une séance de casting.
En plein air. Autour du monument Charles Atangana à Yaoundé, une vingtaine de jeunes filles et garçons participent à un casting de sélection des mannequins organisé par la start-up camerounaise Forst. Joël et Lucie sont parmi les candidates du jour et espèrent pouvoir réaliser leur rêve, devenir mannequin.
Je ne peux pas mourir sans monter sur un podium, sans défiler devant des grandes personnalités. Pourquoi pas créer ma part quand je serai déjà connue? Quand je serai déjà mannequin.
Le style, les vêtements et tout, la démarche, c'est un truc vraiment qui me plaît. Vous savez, les femmes jouent un très grand rôle et je pense que avec mon feeling, je pourrais.
Au menu du casting, quelques passages devant le jury et des questions de culture générale adressées aux candidats. Un exercice auquel le jeune Stéphane et Joël se sont déjà livrés plus d'une fois, avec au bout des fortunes diverses.
embrasser carré dans la mode et le mannequinat, ce n'est pas facile. On vous renvoie dans une semaine, les résultats vont sortir, mais bon, à la fin, on se rend compte que les résultats ne sortent pas. Ils truquent entre eux là-bas et quand vous envoyez les messages, ils ne vous répondent plus.
Au Cameroun, la carrière de mannequin ne s'ouvre pas au premier venu. Tout comme avoir une ligne de vêtements connue n'est pas à la portée de tous. Deux gros défis que la start-up Force commence à relever. Ingrid Kana, promotrice de la start-up Mode Force.
Une agence vit par ses modèles et vit sur les contrats que certains clients, notamment les événements, les événementiels, des showrooms, des défilés, des stylistes qui ont besoin de faire vivre leur marque. Comme vous avez vu tout à l'heure, ce jeune Camerounais qui veut développer sa marque, Chomemo, Voss vivra avec ses modèles.
Fort heureusement, des fleurons de la mode émergent et offrent des carrières de mannequins à d'autres jeunes. Stéphane Junang est l'un d'eux. Il est créateur de la ligne de vêtements Chomemo, qui habille une dizaine de chanteurs camerounais.
J'ai 23 collections déjà sur le marché. J'ai une ligne de vêtements. Et quand on parle de ligne de vêtements, c'est-à-dire qu'on trouve tout. Chemise, costume, pantalon, jaquette, t-shirt, par-dessus, donc tout.
Chaque fin d'année, le Cameroun abrite un grand rendez-vous de la mode dénommé Annual Show. Un événement qui exclut certains jeunes modélistes et mannequins en quête de notoriété. On comprend dès lors pourquoi la start-up First suscite de nombreux espoirs. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Le département d'État américain a sélectionné 22 femmes africaines pour participer au programme d'entrepreneuriat des femmes africaines, l'AWEP, pour l'année 2018. Parmi elles, Khadija Saïd, fondatrice et directrice générale de Aiba Ya Africa, une société tanzanienne qui transforme le miel d'abeille naturel. Blanche Sanou dresse le portrait de celle qui se fait appeler Madame Miel.
Nous achetons notre miel du corridor ouest de la Tanzanie appelé Tabora. Nous achetons avec des petits groupes de femmes afin de leur assurer un marché durable et aussi pour qu'elles réalisent qu'elles font partie du développement économique de la Tanzanie.
And to feel like they're part of the economic development of Tanzania. I wanted to pack to change honey.
Mon but est de révolutionner l'industrie du miel, de la production locale à une production aux normes internationales. Et c'est ce que je fais, de l'emballage jusqu'à la qualité constante du produit lui-même. Et pour être honnête, le miel, ce n'est pas comme le sucre, ce n'est pas un produit indispensable, mais c'est un produit de santé. Ceux qui se soucient de leur santé consomment du miel car c'est nutritif. Cela reste une entreprise, donc il faut plaidoyer, faire des ajustements et des investissements. J'y ai déjà investi non seulement mon temps, mais aussi mon capital. J'ai non seulement amélioré ma vie, mais j'ai aussi amélioré la vie des personnes qui travaillent pour moi. Non seulement les femmes chez qui je prends le miel. Souvenez-vous, quand j'achète chez elles, je leur donne des marchés durables. Je les responsabilise. Elles sont sûres de ce qu'elles font. Elles changent la vie de leurs enfants, de leurs familles et des personnes qui dépendent d'elles. J'ai embauché 15 personnes dans mon entreprise. Ça a changé leur vie, mais indirectement, elles ont aussi changé la mienne.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. Juste après les nouvelles, vous pouvez aussi consulter nos articles vidéo, interviews et les autres éditions dans la rubrique LMF sur notre site internet voaafrique.com. Vous cliquez sur Radio, le monde au féminin et vous y êtes. On reste en contact, à très bientôt.
Arrête!